Cours de philosophie politique par le père Philippe à Saint-Joseph le 18 mars 1987. Sa capacité de don, de contemplation, et le fait que le don des corps n'est légitime qu'en vue de la procréation. Pouvez-vous bien expliquer? C'est plus l'éthique que la politique, c'est sûr, mais c'est le problème. Je peux le traiter rapidement. C'est pas tout à fait l'aspect politique. L'amour. C'est le don spirituel avant tout et en premier lieu. Le don spirituel de nous-mêmes. Autrement dit, on se donne soi-même volontairement. Celui qui veut aimer, aime. Cette parole de saint Augustin qui est si importante. C'est cette volonté d'aimer. Cette volonté d'aimer qui implique ce choix, qui fait qu'on s'aime. Et donc l'amour spirituel, c'est le nœud qui rencontre l'autre amour. Alors, cet amour porte sur ce qu'il y a de meilleur dans l'autre. Ce qu'il y a de meilleur dans l'autre, c'est son esprit. C'est qu'il est une personne capable d'aimer. Capable de contempler, capable de se diriger, le nœud de la personne qu'on aime et qui s'impose à nous comme un absolu. L'amour spirituel est donc en premier lieu la rencontre de deux personnes qui se donnent spirituellement. C'est capital de comprendre ça. C'est ça la philia. Et c'est ça l'amour spirituel. Si on ne voit pas ça, on ne peut pas comprendre le reste. Alors, l'amour est lié à tout l'aspect passionnel. Nous sommes des êtres passionnés. Heureusement. Un être qui n'est pas passionné, c'est triste. Par le fait même, l'amour spirituel doit assumer la passion. Et quand on est un peu lucide, on sait que l'aspect passionnel est toujours en nous, premier génétiquement. Et que l'amour passionnel est lié aux instincts. Et que l'amour passionnel, pour la plupart des hommes, demeure un sommet. Ut in pluribus manat in sensu. Surtout dans l'affectivité. Ut in pluribus manat in sensu. Je crois qu'il est bon d'avoir fait cette expérience. C'est pour ça qu'Aristote dit que quand on est jeune, on ne peut pas faire de l'éthique. Parce qu'on est trop dans les passions. Je crois que le chrétien peut entrer plus vite dans l'éthique que le grec, s'il est chrétien. Parce que la grâce, l'agapé, met en nous une force divine qui nous permet d'assumer l'amour spirituel, de le fortifier et de lui donner un caractère substantiel qui permet d'assumer les passions. C'est le levain qui fait lever la pâte. Vous voyez, tout vient d'en haut, et pas d'en bas. Ça, c'est propre de l'amour divin. L'amour passionnel vient d'en bas. Et génétiquement, il est le premier. Et je sais que cet amour passionnel, il n'est jamais éteint. Je vous dis, c'est l'aspect volcanique qui est en nous. Et quand vous surveillez le sommet du cratère, et vous voyez que ça, quelquefois, ça crache sur le côté, ça explique des quantités de choses. Ça explique comment des hommes mariés depuis 15 ans, comme on dit, meurent tous les jours dans ce domaine-là. C'est toujours nouveau. Un foyer marié depuis 25 ans. Le mari qui quitte son épouse, qui quitte ses enfants, et qui va épouser quelqu'un d'autre. Quelqu'un de chrétien. Quelqu'un de merveilleux. Un excellent médecin. Je dis exprès parce que c'est un médecin, donc il devrait être un peu plus lucide. Surveiller le cratère, puis les vieillards par rapport à Suzanne dans l'écriture, c'est dit dans l'écriture. Donc, en tant que juge, ils surveillaient le cratère des autres, ils ne se surveillaient pas eux-mêmes. Et ainsi de suite, venez, bon, c'est au fond, on est passionné toute sa vie. Et les passions de 18 ans, et les passions de 25 ans, et les passions de 45 ans, et les passions de 70 ans, ont des modalités différentes. Elles existent toujours, si on est un être vivant. Le jour où vos passions meurent, c'est dommage. Mais les passions demeurent tout le temps, mais avec des modalités différentes. On sait que ces passions demandent toujours d'être assumées par un amour spirituel. Et que si vous laissez les passions passer devant, il y en est tous suffisamment lucides pour le savoir. À ce moment-là, vous vous laissez emporter. Et progressivement, l'amour spirituel meurt. On voit des êtres qui étaient merveilleux au plan spirituel, peut-être à 18 ans, et à 25 ans ou 40 ans, sont morts spirituellement. Ça existe. Ils sont passionnés. Alors, c'est périphérique à des passions comparativement à l'amour spirituel. On est conscient de ça. Autrement, on n'aime pas vraiment. On n'aime pas humainement. Ça, c'est très important, ce phénomène-là. C'est très bien d'éveiller les passions, mais il faut tout de suite les assumer. Parce que si les passions passent devant, si le sensible passe devant, vous êtes ut in pluribus manat in sensu. Et vous tombez dans le ut in pluribus. Ce qui veut dire que vous descendez le fleuve comme tout le monde. Et vous vous adaptez à votre passion. Ce qui est très facile. Ce n'est pas héroïque du tout. C'est l'abandon complet. Il s'abandonne, on voit très bien, il se laisse aller. Ça, c'est très important, cette constatation que nous pouvons tous faire. Il faut être clairvoyant là-dessus. Les passions, c'est la sensibilité. C'est dans le corps. Alors, vous comprenez que l'amour spirituel ne peut rester amour spirituel que si les passions sont éduquées. Et les passions sont éduquées par certaines vertus qu'on verra du reste en éthique. Et on reverra ça en éthique. La vertu de tempérance. Et le jeûne du carême éduque nos passions. L'Église est une maîtresse d'éducation. Avec Marie, on a toujours besoin de se remettre à jeûner. Quelqu'un qui ne jeûne plus du tout, il lui manque quelque chose. On a toujours besoin de rééduquer la vertu de tempérance. Et on a toujours besoin de rééduquer la vertu de chasteté. Ça s'acquiert. La vertu de chasteté, on ne naît pas chaste. Quelqu'un qui dit, j'ai jamais eu de tentation de ce côté-là. Bien dommage. C'est bien dommage. Parce que ça s'allumera à 45 ans et n'aura pas éduqué sa vertu. Alors, Dieu a pu donner une grâce pour qu'on soit victorieux. Bien, qu'on a lutté et qu'on lutte. Et qu'on doit toujours lutter. Tout est clairvoyant dans ce domaine-là. Tu n'es pas clairvoyant dans ce domaine-là. Je vous affirme, vous surveillez le cratère. Et attention, vous verrez. Parce que c'est ce qu'on a tous entendu. J'ai entendu des jeunes prêtres de 30 ans me dire, il faut être fidèle à la vie. Fidèle à la vie, c'était parce qu'ils aimaient une jeune fille après avoir été ordonnés prêtres et quitter leur sacerdoce pour suivre. À 30 ans. Ou à 40 ans, ou même à 50 ans, et même 60 ans. Tous vu ça. Et pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas eu la lucidité de comprendre que l'amour spirituel doit tout le temps lutter. Tant qu'on est sur la terre, on lutte tout le temps et on accepte de lutter. Ça, c'est le réalisme de l'Église militante. On doit tout le temps lutter. Celui qui abdique de lutter, mais il est fichu. C'est pas drôle, je suis bien, je suis tout à fait d'accord, on aimerait mieux s'arrêter sur moi. Et puis, te regarder autour de soi serait plus agréable. Mais c'est de ce côté-là qu'on sent ce que c'est que la lutte. Alors, le don des corps a une signification très particulière. Le don des corps n'est pas le don de la sensibilité. C'est peut-être ça qu'on confond un peu trop. Le don des corps implique le point de vue sexuel. C'est ça qu'on veut dire quand on dit le don des corps. Il faut comprendre ce que l'Église veut dire. Ce n'est pas la sensibilité. Dans tout amour spirituel, il y a la sensibilité. Et on sait que notre sensibilité éveille la passion et que la passion est liée à l'instinct sexuel. On glisse facilement de l'un à l'autre. Il faut les distinguer. Je ne suis pas freudien. Freud les confond. Pour lui, tout amour sensible est sexuel. C'est terrible. C'est le pansexuel. Vous voyez que tout est sexuel dans votre sensible. C'est pas vrai. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à cause et conséquence du péché originel, il y a une pente très glissante. Il faut être attentif à ça. Donc le don des corps implique le point de vue sexuel en vue de la procréation. Puisque le point de vue de l'union sexuelle implique le point de vue de la création, de la procréation. Vous ne pouvez pas dire le don des corps est uniquement pour l'amour d'amitié. Et donc uniquement pour manifester l'amour. C'est vrai que le don des corps est pour manifester l'amour. Mais je n'ai pas le droit d'exclure l'autre aspect. Si donc il est exclu dès le point de départ, vous faites à ce moment-là une séparation que vous n'avez pas le droit de faire. et vous ne respectez pas l'autre. Mais c'est pour ça que j'insiste tellement sur la vertu de justice, le respect de l'autre. On est dans un monde où il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect, il faut le reconnaître. Il n'y a plus de respect de l'autre, et c'est pour ça qu'il y a l'avortement. Alors, je crois que tout est là, et c'est ça qui est important à voir. Distinction entre le point de vue sensible et le point de vue sexuel. Le don des corps implique nécessairement le point de vue sexuel. Et ce point de vue sexuel est en vue de la procréation. Dans le mariage, même s'il y a impossibilité d'avoir d'enfants, c'est pas exclu. Vous allez me dire, c'est pharisaïque. Non, c'est pas pharisaïque, c'est le réalisme, tout simplement. Que Dieu a réalisé l'homme et la femme de cette manière pour qu'il y ait un amour parfaitement incarné. Et Dieu réclame que l'homme soit toujours capable d'aimer spirituellement. Même dans le mariage. J'ai entendu une fois quelqu'un qui me disait, c'était à la fois très touchant et terrible. En disant, mais tant qu'on est marié, tout est permis. Je dis, pas du tout. Vous devez continuer de vous aimer spirituellement. Et si vous ne continuez pas de vous aimer spirituellement et de vous éduquer à vous aimer spirituellement, et donc d'être chaste, vous arriverez à 40 ans où vous vous séparerez. C'est ce qui arrive. Pourquoi il y a tellement de divorces? Parce qu'il n'y a plus de vertu. Il faut appeler les choses par leur nom. Si les gens s'aimaient vraiment, ils seraient vertueux. Et alors à ce moment-là, ils se porteraient mutuellement. Et la sensibilité ne s'userait pas si vite. Quand on vit en commun, la sensibilité s'use. Et quand la sensibilité s'use, alors on n'a plus la satisfaction qu'on aurait voulu avoir et on la cherche autre part. Tout le temps comme ça. C'est une clarté, une simplicité d'enfant. Il faut qu'on ait compris ça. Et pourquoi? Parce que de fait, on n'éduque pas l'amour. On doit éduquer à aimer. Et c'est la grande éducation. L'éducation dépasse la vertu pour regarder l'amour. On doit éduquer, mais c'est-à-dire apprendre à s'aimer spirituellement. Et quand on s'aime spirituellement, on comprend que la sensibilité et les passions, c'est très bien. Mais c'est secondaire, c'est pas premier. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, qui est le don profond, personnel. Alors à ce moment-là, le don des corps n'est plus essentiel et substantiel à l'amour humain. La sensibilité est seconde, on le sait. Et dans toute amitié humaine, il y a des éléments sensibles. Il y a des éléments passionnels. Il ne s'agit pas de s'aimer d'une façon platonique. Du reste, quand on s'aime d'une façon platonique, on sait où ça conduit. Il suffit de regarder le banquet de Platon. Parce que l'amour platonique risque toujours d'être esthétique. Vous savez que dans l'homosexualité, il y a énormément d'esthétisme. Ça, je crois. Où est-on du côté bestial? Où est-on du point de vue esthétique? Mais ce n'est pas l'amour spirituel dans tout son réalisme. C'est très curieux, ça. Et ce serait très intéressant à étudier de très près. De bien comprendre que l'amour spirituel regarde une personne en respectant cette personne telle qu'elle est. Dans sa sensibilité, dans son cœur humain, dans tout ce qu'elle est. On doit l'aimer d'une façon tout à fait propre et personnelle. Donc l'amour d'amitié se noue autour d'un don spirituel qui implique la sensibilité. Et cette sensibilité, parce qu'on sait que lorsqu'elle est trop forte, elle risque toujours d'empêcher le don plus profond. C'est pour ça que la sensibilité, on la maintient toujours au second plan. On est lucide. Si la sensibilité prend le plan premier, on sera toujours conduit à dire la sensibilité va impliquer le don des corps. Quand la sensibilité est première, elle conduit à l'aspect sexuel. Quand la sensibilité est première, quand la sensibilité est assumée par le point de vue spirituel, la sensibilité se relativise. Et la sensibilité, alors, à ce moment-là, n'implique plus le don des corps. Parce qu'elle est au service du point de vue spirituel. Donc vous voyez bien ça. Je crois que c'est capital. Si dans un moment, il y avait encore des questions, il faut les pousser jusqu'au bout, ces questions. Parce que nous serons affrontés tout le temps devant ces problèmes. Et on ne doit pas répondre uniquement d'une façon morale. C'est défendu. Mais non, c'est pas défendu. Si l'Église défend quelque chose, c'est pour sauver la nature humaine et l'amour spirituel. C'est ce qu'il faut dire. Et il faut le dire parce qu'on l'a découvert. On doit être les défenseurs dans le monde d'aujourd'hui de l'enseignement de l'Église. Non pas d'une manière apologétique, mais d'une manière intelligente. Et d'une manière intelligente, c'est-à-dire d'une manière philosophique. On va jusqu'au bout, au plan philosophique. Et on dit, si l'Église dit ça, c'est parce que l'Église sait et connaît, en raison du freudisme dans lequel on vit. On vit dans un climat freudien. Tous, plus ou moins. Ou chrétien. On vit dans ce climat-là. Et vivant dans ce climat-là, je comprends très bien que l'Église, gardienne de ce que représente l'amour spirituel, puisque c'est la première finalité de l'homme, et l'Église veut que l'homme soit homme, c'est-à-dire un être spirituel et une personne. Alors, la première finalité de l'homme, c'est l'amour d'amitié. Et l'Église maintient ça, elle est gardienne de cela. Nous devons donc entrer profondément dans cette vision pour montrer que si l'Église dit que telle ou telle chose est défendue, entendons toujours la dialectique du serpent. Pas du tout, c'est pas ça du tout. C'est toujours la même chanson. C'est pas ça, c'est que Dieu a peur que vous libériez, que vous... donc Dieu vous maintient. L'Église maintient dans une prison, elle veut maintenir dans une prison, mais pas du tout. L'Église veut libérer l'homme de sa vraie liberté, c'est-à-dire en s'ouvrir dans l'amour. Et c'est ça qu'on doit comprendre. Donc vous voyez, quand l'Église montre qu'il n'y a pas de don des corps en dehors du mariage, c'est pour rappeler que le don du corps est ordonné à l'union de l'époux et de l'épouse dans l'amour, en vue de la procréation. Et que le don des corps dans le mariage exprime l'amour, et que ce n'est pas la seule manière d'exprimer. Et c'est pour ça que l'amour de l'époux et de l'épouse n'est pas la seule amitié. Pour le philosophe, le vieil Aristote, l'amour des contemplatifs va plus loin que l'amour d'amitié de l'époux et de l'épouse. Ce qui est parfaitement vrai. L'amour d'amitié entre contemplatifs va plus loin que l'amour de l'époux et de l'épouse. Parce qu'il y a une rencontre personnelle qui va plus loin. Quand on aime vraiment quelqu'un, on souhaite qu'il aille le plus loin possible dans ce qu'il est. Or, l'homme va le plus loin possible dans ce qu'il est quand il est contemplatif. La vraie contemplation. dans l'ordre du conditionnement humain, l'amour de l'époux et de l'épouse a toujours quelque chose de plus humain, je suis d'accord. Donc de plus sensible, de plus proche de nous, de plus visible. C'est très rare l'amitié entre contemplatifs. Mais c'est la plus grande amitié. C'est la plus belle des amitiés. Parce que c'est là où vraiment on aime l'autre dans ce qu'il a de plus lui-même. Et on est aimé dans ce qu'il a de plus lui-même. Et je vous ai dû raconter cette petite histoire, moi, qui m'a impressionné, parce que c'est impressionnant de voir ça. C'était l'abbé Godin, donc celui qui a lancé les prêtres ouvriers en France. Mais quand il a lancé les prêtres ouvriers, il savait très bien ce qu'il faisait. Il ne voulait pas que ce soit généralisé. Il disait, ce sera exceptionnel. Lui sortait de la classe ouvrière. Il le savait. Il ne s'en cachait pas. Il m'avait dit, seuls ceux qui ont été ouvriers avant d'être prêtres peuvent être prêtres ouvriers. Comme seuls ceux qui ont eu des études suffisantes pourront de fait contacter des intellectuels. C'est la même chose. Quand j'étais professeur à Fribourg, je me considérais prêtre ouvrier. Parce que quand on enseigne dans une université, on est fonctionnaire. On est prêtre ouvrier. Il y a le travail intellectuel, le travail manuel. On est prêtre ouvrier. Parce qu'on est tout proche d'autres. On fait le même métier. On est prêtre ouvrier. Et on peut se laisser griser par son professorat. C'est ce qu'on m'avait dit quand j'arrivais à Fribourg. On m'a dit tout de suite, n'oubliez pas que d'être professeur d'université, c'est d'être plus qu'un évêque. Et au-dedans de moi, je me dis, espèce d'imbécile. Le sacerdoce est plus grand. Être apôtre, c'est infiniment plus grand. Mais on me demande ça, c'est bien, très bien. Je ne l'ai pas cherché. Je l'ai accepté parce qu'on me l'a demandé dans l'obéissance. On ne peut être prêtre ouvrier que dans l'obéissance. Si on choisit, ça ne va pas. On peut être professeur d'université que dans l'obéissance. Parce que c'est extrinsèque au sacerdoce. Et si on ne fait pas grande attention, au bout d'un certain temps, le professorat dépasse le sacerdoce. C'est toute la crise aujourd'hui des théologiens. Les théologiens sont plus théologiens que prêtres. Ils croient que c'est plus. Mais comme mauvais théologien, ça alors vraiment, c'est la condamnation de la théologie, celui qui dit ça. Parce que le théologien doit être celui qui montre toujours la primauté du Christ. Et le sacerdoce nous relie au Christ. Et la vie religieuse nous relie au Christ d'une façon plus fondamentale que le sacerdoce. Et le professorat ne nous lie pas immédiatement au Christ. On n'est qu'aux secondes comme professeur. On n'est qu'aux secondes. Et donc, on soigne son image. Et si on soigne son image, on n'est pas instrument de Dieu. Alors, c'est très important de saisir ce point de vue que l'amitié, elle est plus grande comme amitié entre contemplatifs qu'entre l'époux et l'épouse. C'est ce qu'on oublie aujourd'hui. Alors, parce que on a exalté l'instinct sexuel, c'est très vrai qu'à cause d'une moralisation, on l'avait peut-être, et on peut dire on l'avait, passé, regardé, tel qu'il est. Je me souviens là encore, c'est un petit souvenir, je dis ça par expérience, quand des psychanalystes freudiens m'ont demandé de dialoguer avec eux, il y avait un intermédiaire, et une de ces psychanalystes est venu me voir avant pour tâter le terrain. Alors, je lui ai parlé comme on parle à un psychanalyste en philosophe. Puis elle m'a demandé quels étaient les grands problèmes. Je lui ai dit tout de suite. Je n'ai pas hésité à dire qu'un des problèmes. travail, c'était de voir exactement la sexualité où ça se situait. On a parlé ouvertement. En philosophie, on peut en parler ouvertement, c'est l'avantage. Sans ce point de vue moral. Je dis, il faut parler du point de vue sexuel sans en parler du point de vue moral. Je dis oui. Au point de vue philosophique, il faut d'abord savoir ce que c'est. Et ensuite, vous regardez le point de vue moral. Et le point de vue moral, c'est l'usage. Alors elle m'a regardé avec des grands yeux. Il faut faire la distinction entre l'usage. On use de ses facultés moralement. Ou on n'en use pas moralement. Et on sait ce que c'est. Mais le point de vue moral, c'est pas la négation de la chose. C'est exactement pour les passions. On use les passions, vous les regardez. Alors, dès que je dis ça, c'est l'aristotélisme, c'est le réalisme poussé jusqu'au bout dans notre être. Et à voir les choses nettement. On sait qu'on est passionné. Heureusement qu'on le sait. Parce que les autres le savent. Avant nous, souvent. Autant que possible, il vaut mieux le savoir avant les autres. Et mieux que les autres. On est des êtres passionnés. On est des êtres humains bâtis comme ça. On le sait. On sait ce que représentent les instincts, l'appétit naturel de la nourriture. Et le jeûne est là pour nous rappeler qu'il y a un appétit naturel pour manger et boire. Et la chasteté est là pour nous apprendre mieux ce que c'est que l'appétit sexuel, l'appétit naturel. C'est bien évident. La vertu nous rend plus lucides. C'est le propre de la vertu. Elle ne cache pas, elle rend lucide. Et donc elle permet d'éduquer. Et de mieux éduquer et de mieux voir. Et alors on comprend notre corps, il est fait pour quoi ? Philosophie du corps. Notre corps, il est fait pour quoi ? Il est ordonné à notre âme spirituelle, à la différence des animaux. Le corps animal est entièrement uni à l'âme animale. Et il est ordonné à l'espèce. C'est pour ça que pour l'animal, l'instinct sexuel est ordonné à l'espèce. Et que l'animal considère que la génération, du moins le philosophe regardant l'animal, parce que l'animal, il est très inconscient. C'est ce qu'il y a de magnifique dans l'animal. Il est très inconscient. Il est instinctif. Et l'instinct sexuel est ordonné à l'espèce. L'homme peut dépasser l'instinct sexuel. Il peut le dépasser. C'est-à-dire, il peut comprendre que sa sensibilité ordonnée à l'amour spirituel est une sensibilité qui va plus loin qu'une sensibilité ordonnée à l'instinct sexuel. Il faut faire comprendre ça aux gens, et même aux gens mariés, et surtout aux gens mariés, mais surtout aussi aux gens qui veulent mener une vie chaste. Que la sensibilité assumée par l'appétit spirituel est une sensibilité qui s'aiguise. Un être chaste est plus sensible que quelqu'un qui ne l'est pas. Un être chaste, donc qui veut vivre vraiment la chasteté et qui l'a accepté consciemment, est un être plus sensible. On a tous fait cette expérience. Si on ne l'a pas encore fait, on la fera. Moi, je sais pas, c'est la première expérience que j'ai faite après 10 années de vie monastique. Le sacerdoce, on retrouve ses amis. Ils sont mariés, c'est évident. Alors, première chose qui vous frappe, c'est que la vie des choses vous a rendu infiniment plus sensible. Sensible au grand sens, c'est-à-dire capable de comprendre l'autre, capable de recevoir l'autre, et capable de comprendre ce que représentent les passions. On est bien plus passionné. Les autres, c'est un petit peu abîmé. On est bien plus passionné. Et donc, on a des capacités bien plus grandes de saisir les autres. C'est ce qui explique, du reste, pourquoi la vie religieuse, menée pleinement comme vie religieuse, puisque la vie religieuse, c'est la taille du Père, au sens très très fort, pour que tout l'aspect sensible, passionnel, soit assumé par le point de vue spirituel. La vie religieuse nous rend plus sensible et donc plus vulnérable. Il suffisait de voir pendant la guerre, quand il y a eu l'exode de tous les Carmels et de toutes les Clarisses sur les routes, on avait l'impression que toutes ces pauvres petites Carmélites étaient complètement désarmées par rapport à notre monde. Alors certains disaient, oh, voyez ça, je trouve ça admirable. C'est admirable. Notre monde d'aujourd'hui nous matérialise, il n'éduque pas du tout notre sensibilité, il l'abîme. L'éducation d'aujourd'hui, avec cette espèce de liberté absolue, de libéralisme absolu, il abîme terriblement la sensibilité. Il matérialise tout. On fait des êtres robots. Alors, on comprendrait bien comment ça conduit à la drogue. Puisque la sensibilité est abîmée, alors on cherche des procédés artificiels pour aiguiser encore l'émotion. Alors c'est la drogue. Et après la drogue, hein, c'est le suicide. C'est terrible de voir ça. Parce que de fait, on ne voit pas la distinction fondamentale entre la sensibilité et l'instinct sexuel et l'appétit naturel à l'égard de l'union sexuelle. On ne voit plus, vous savez, Freud, il est mené par le démon. Il ne faut pas dire que Freud, c'est faire ce blocage conduit à ce qu'on voit aujourd'hui. Alors il n'y a plus de chasteté. Il ne peut plus y avoir de chasteté, puisque si on l'unit les deux, il n'y a plus moyen. Tandis que si vous comprenez que la vertu de chasteté permet de libérer le sensible par rapport au spirituel, du sexuel, vous ennoblissez le sensible et vous devenez des êtres bien plus sensibles. Et donc bien plus perméables, bien plus capables d'accueil. Mais c'est par le haut, pas par le bas. Comme toujours, vous éduquez par le haut, puisque vous éduquez par la finalité. Alors, par là, on arrive à comprendre comment le don des corps n'est pas la seule manifestation de l'amour. La manifestation de l'amour est premièrement dans le sensible. Présence de quelqu'un qui est parfaitement présent. Ce que je vous affirme, que s'il n'y a pas une présence spirituelle, le don des corps ne rend pas présent. Ce qui rend présent, c'est le point de vue spirituel et le point de vue de la sensibilité. Ça, je crois que c'est capital de comprendre ça et de le comprendre profondément, c'est-à-dire le vivre. Connaissance par connaturalité, comme toujours, quand il s'agit des connaissances affectives. Si on actuellement à Paris, dans tout le milieu, des homosexuels. Maintenant, il joue la musique, le piano, tous les soirs, de 10h du soir à 4h du, à 2h du matin, dans ce milieu de ces jeunes.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.